Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump remet la pression sur Pékin avant des négociations commerciales à haut risque. Il annonce augmenter les droits de douane sur les produits chinois importés. Nous rejoindrons notre correspondant à Washington pour des explications. Éclairage aussi sur ce qui a pu se passer au Bénin et au Burkina Faso. Deux touristes français ont disparu. Leur guide a été retrouvé mort ce week-end. Et puis quel média pour parler d'Europe ? Panorama à suivre à moins de 3 semaines des élections. Fera-t-il échouer les négociations commerciales ? Selon le Wall Street Journal ce matin, en tout cas, la Chine pourrait y mettre fin après cette annonce de Donald Trump. Le président américain va relever brusquement les droits de douane sur les produits chinois dès vendredi prochain. Alors coup de colère ou coup de poker ? On s'interroge, Pierre-Yves Dugas, d'autant que le président souffle le chaud et le froid.
Vendredi, le président Trump déclarait que les négociations avec la Chine se déroulaient plutôt bien. Son annonce sur Twitter d'un relèvement dès vendredi, de 10 à 25% des droits de douane qui frappent déjà 200 milliards de dollars de produits chinois, donne au contraire le signal que les négociations en cours depuis janvier sont dans l'impasse. Le deal commercial avec la Chine continue, mais trop lentement, alors qu'il cherche à renégocier. Non ! Point d'exclamation, proclame le tweet présidentiel. Donald Trump va plus loin, il promet que 325 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires seront bientôt frappés de droits de douane. Il va même jusqu'à rendre les sanctions déjà en place contre la Chine, en partie responsable des signaux très positifs récents donnés par la conjoncture américaine.
Les experts de l'ONU sur la biodiversité doivent dévoiler ce midi une évaluation mondiale sans précédent des écosystèmes sur notre planète. Cette évaluation devrait montrer le besoin urgent d'un plan pour sauver la nature poussée à la destruction par les hommes qu'elle fait vivre. Dans ce combat, la Chine veut se montrer bonne élève, d'autant qu'elle accueille l'année prochaine la conférence des parties sur le climat, Dominique André.
La COP15 sera hébergée par la Chine qui s'est fixée pour but de devenir une civilisation écologique. Selon l'IUCN, l'Organisation internationale pour la conservation de la nature, la Chine est l'un des 17 méga-pays les plus diversifiés avec 34 000 espèces de plantes et d'animaux. Sous l'impulsion de Xi Jinping, une réforme a été engagée avec la création de 2 grands ministères chargés de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution et l'autre des ressources naturelles. Ces décisions vont plutôt dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus de 2/3 des nappes phréatiques sont polluées avec une qualité de l'eau jugée mauvaise à très mauvaise selon les statistiques publiées officiellement en juin 2018. 255 espèces animales sont en danger selon des ONG chinoises, dont les grands dauphins du Yangtze, la panthère des neiges et le panda qui est loin d'être sauvé avec moins de 2000 individus à l'état sauvage. Malgré le discours politique, on est très loin de l'application des standards internationaux, explique un expert. Que ce soit au barrage des Trois Gorges ou dans les aménagements en milieu naturel, les impacts sont colossaux, affirme ce spécialiste de l'aménagement, car la Chine ne reconnaît pas la norme ERC, éviter, réduire, compenser, appliquée par l'Europe et les États-Unis pour tous les projets d'aménagement en espace naturel. Qu'est-ce que la biodiversité pour la Chine ? C'est peut-être déjà à cette question que devrait répondre le futur pays hôte de la COP15.
Dominique André, la correspondante de France Culture à Pékin. Après 2 jours de violence au Proche-Orient, le Hamas et le djihad islamique annoncent ce matin accepter un cessez-le-feu avec Israël. Hier soir encore, des centaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, provoquant une riposte de l'armée israélienne. Cessez-le-feu en cours, donc, a priori, depuis 3h30 tout à l'heure. Nous retrouverons notre correspondant à Jérusalem lors du journal de 7h sur France Culture. Avant cela, suite de ce journal, avec cette disparition toujours énigmatique, 2 touristes français ont disparu au Bénin la semaine dernière. Samedi, un corps a été retrouvé au Burkina Faso voisin et l'on sait depuis hier soir qu'il s'agit bien du guide des 2 Français, Éric Biegala.
Le corps retrouvé samedi avait été dégradé par les charognards au point de le rendre visuellement inidentifiable. C'est grâce à ses effets personnels que la famille du guide a pu l'identifier hier. Et c'est sans doute l'endroit où a été découvert son corps qui est le plus significatif. Sur les rives béninoises de la Pendjari, la rivière qui marque la frontière entre le Bénin au sud et le Burkina Faso au nord. Une présence qui semble indiquer que les 2 Français ont pu passer ou être emmenés au Burkina. Un véhicule semblable à celui que conduisaient les 3 hommes aurait également été retrouvé abandonné au Burkina Faso ce qui pourrait accréditer la thèse d'un enlèvement. Dans cette région du Burkina, plusieurs groupes djihadistes issus d'Al-Qaïda et venus du Mali sévissent depuis 6 mois. En décembre, un couple de touristes italo-canadiens a pareillement disparu dans la même région. Leur enlèvement n'a jamais été revendiqué, mais une source sécuritaire burkinabé affirmait en mars dernier qu'ils étaient vivants, probablement détenus au Mali par les djihadistes. C'est peut-être le sort qui a été réservé aux 2 enseignants français disparus mercredi. Ils auraient dû rentrer de leurs vacances africaines ce dimanche.
Laissez-nous nos CTS, nos conseillers techniques sportifs. Plusieurs athlètes ont apporté ce week-end sur les réseaux sociaux leur soutien à ces cadres d'État. Leur gestion dépend actuellement du ministère des Sports, mais elle devrait être progressivement déléguée aux fédérations sportives. Voilà ce que prévoit le projet de loi de la réforme de la fonction publique, discuté la semaine prochaine. Et voici les explications de Lara Mercier.
Les CTS, conseillers techniques sportifs, sont environ 1600 en France. Fonctionnaires payés par l'État, ils jouent un rôle essentiel en détectant par exemple les jeunes talents ou en encadrant les athlètes de haut niveau. Or, depuis septembre et l'arrivée de Roxana Maracineanu au ministère des Sports, le gouvernement prévoit de transférer leurs postes aux fédérations afin d'optimiser le budget amputé de 30 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Pas de quoi rassurer le monde du sport qui craint une baisse drastique de moyens malgré les promesses du gouvernement qui assure qu'une compensation sera allouée aux fédérations sans préciser de délai. Mais vendredi, un amendement ajouté par le gouvernement et adopté en commission des lois remet le feu aux poudres. Il précise que les fonctionnaires pourront être détachés d'office dans certaines situations alors que cela était prévu sur la base du volontariat. Réaction immédiate de l'Association des directeurs techniques nationaux qui dénonce, je cite, un amendement scélérat du gouvernement porté en catimini sans informer les députés. Du côté du ministère, on parle d'une simple mesure de coordination qui ne concerne pas spécifiquement les CTS. Ces derniers ont en tout cas reçu le soutien de plusieurs grands noms du sport, parmi lesquels Jimmy Vico ou Kevin Mayer, qui rappellent le rôle essentiel de ces cadres techniques, sans qui ils ne seraient jamais parvenus au plus haut niveau. Les athlètes font aussi part de leur inquiétude pour l'avenir du sport français, car dès la rentrée prochaine, les CTS partant à la retraite ne seront plus remplacés, ce qui devrait faire baisser leur nombre de 25% d'ici 2024. Une situation préoccupante à 1 an des JO de Tokyo et à 5 de ceux de Paris.
Quand le gouvernement souhaite nouer une nouvelle relation avec les partenaires sociaux, il les invite ce matin à Matignon, syndicats, associations d'élus, acteurs associatifs. Le cabinet du Premier ministre reconnaît un changement de méthode envers les partenaires sociaux avec cette réunion qui sera consacrée à l'emploi, aux transitions écologiques et numériques. La politique encore et les élections européennes qui auront lieu dans moins de 3 semaines. Seuls 40% des Français ont l'intention de participer à ce scrutin. Voilà ce que dit notre sondage Ipsos Soprast réalisé avant la publication ce week-end au journal officiel des 33 listes validées par le ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national arriverait légèrement en tête devant la liste de la majorité. Les européennes et les médias, ces élections seront-elles suffisamment couvertes, suffisamment expliquées? Pour France Culture, Laura Dullier s'est penchée sur les médias d'actualité européenne. Alors oui, ils existent, mais ils peinent à atteindre le grand public, Laura.
On ne peut pas dire qu'il n'existe pas de médias européens. Il y a le réseau Euractiv, un média en ligne disponible gratuitement en 12 langues. Il y a le journal Politico, arrivé en 2015 à Bruxelles et dont la version en ligne est également gratuite. En France, il y a aussi Contexte, qui traite les politiques publiques françaises et européennes. Mais tout ça, ce sont des médias destinés aux élites politiques, qu'elles soient à Bruxelles, Paris ou ailleurs. Christophe Leclerc, fondateur du réseau Euractiv.
L'espace public européen n'existe pas encore. Je pense que la presse est très frileuse. D'une part, les dirigeants des médias sont avant tout tournés vers leur gouvernement de référence. Il n'y a pas encore de presse européenne et je ne confonds pas le petit milieu des médias spécialisés comme Euractiv avec ce qui devrait être une presse européenne.
Alors comment faire pour intéresser le grand public à l'Europe? Même si certains médias européens essayent en étant gratuits par exemple, d'autres raccrochent carrément les questions européennes à l'information locale. C'est le cas de Radio, une radio locale créée il y a 12 ans à Nantes et qui se déploie peu à peu dans plusieurs villes de France. Simon Marty est le coordinateur des rédactions.
On ne peut pas traiter un sujet d'actualité sans le mettre à la sauce européenne. Ça veut dire que concrètement, si on prend une thématique qui touche notre territoire, on va aller voir dans d'autres pays européens, est-ce que c'est un problème qu'ils ont déjà rencontré? Si oui, comment ils ont pu le solutionner? On est toujours en train de rajouter une autre strate, une autre couche d'information pour venir enrichir l'information de base.
Le tout dans un contexte où l'Europe semble toujours très éloignée des électeurs. L'abstention en France devrait se situer autour de 60%. 30% le 26 mai prochain.
Les médias et l'Europe, c'est un dossier complet des témoignages en longueur à retrouver sur notre site franceculture.fr. Calme et fraîcheur sont au menu de la météo du jour si quelques averses pourraient traverser les Hauts-de-France. Le ciel restera lumineux dans l'ensemble. Il fait 7 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 10 à Lille, 11 degrés à Paris, 15 à Perpignan.